حياك الله أخي طيب، حياكم الله جميعا وأهلا وسهلا ومرحبا. Bienvenue à ceux qui sont nouveaux, si il y a toutefois des nouveaux. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. طيب، donc nous voici réunis une fois de plus par la grâce d'Allah Ta'ala pour un nouveau cours sur la science du fiqh, de la jurisprudence, fiqh al-ibadat, c'est-à-dire la jurisprudence dans les adorations. Donc, comme vous le savez, on le répète, Inch'Allah Ta'ala, une fois de plus, nous sommes en train d'étudier ce qu'on appelle en arabe al-madkhal, madkhal ila ilm al-fiqh, l'entrée dans la science de la jurisprudence. Donc, c'est une science des choses, des fawaïd très importantes concernant le fiqh que nous étudions et que nous devons connaître avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire la jurisprudence des adorations. Alors, avant de continuer notre ouvrage là où nous l'avions laissé dans le cours précédent, nous aimerions, Inch'Allah, par la permission d'Allah Ta'ala, vous mentionner quelques fawaïd importants, quelques points importants concernant l'étude du fiqh. L'étude du fiqh. Pour que les étudiants, les élèves puissent avoir conscience, une complète conscience de l'importance de cette matière qu'ils sont en train d'étudier, de cette matière vitale qu'ils sont en train d'étudier. Le premier point concernant le fiqh, l'importance de l'étude du fiqh. Le premier point, c'est un point que vous connaissez normalement tous. C'est que le fiqh, l'importance de cette science que vous connaissez tous, c'est qu'elle va vous permettre et nous permettre à tous, elle permet cette science de savoir comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme vous le savez également, on ne peut pas, à partir du moment où on a pris conscience que l'on doit adorer Allah, subhanahu wa ta'ala. À partir de ce moment-là, où on a pris conscience, ça y est, on a compris, on doit adorer Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est un premier pas. Mais il y a le deuxième pas, et qui est aussi, voire plus important, c'est comment tu vas adorer Allah si tu ne sais pas comment l'adorer. Comment tu pourras adorer Allah subhanahu wa ta'ala si tu ne sais pas comment tu dois adorer Allah, c'est-à-dire, comme on a expliqué hier, hein, on y revient encore, hein, comme on vous l'a dit, le ilm, c'est pas la science, c'est pas que dans le tawhid. On revient à la connaissance, al-ilm. L'importance d'étudier le fiqh, c'est que tu vas apprendre comment tu vas adorer Allah Ta'ala dans tes adorations. Donc, au niveau des adorations, dans cette matière, ça sera un contexte plus particulier, plus spécifique, c'est que ce seront les adorations, les œuvres physiques, en règle générale. En règle générale. Ça, c'est le premier point. Tu ne pourras pas adorer Allah Ta'ala. Comment faire ta salat? C'est du ilm, ça s'apprend. Ce n'est pas juste 5 raka'at comme ça. Il y a tellement et tellement et tellement de choses à apprendre. Et le fait d'ignorer toutes ces choses peut mener à l'égarement, voire en enfer. D'où l'importance du firqa. D'où l'importance du firqa. Si vous voulez un exemple, on va donner un exemple concernant quelqu'un qui délaisse le firq et qui peut se retrouver en enfer. Quelqu'un qui fait les 5 piliers, on va pas parler du tawhid, ça on laisse ça dans les cours de tawhid. On va parler du firq al-ibadat, quelqu'un qui toutes ses salats ne sont pas acceptées. Parce que à chaque prière, il fait ce qu'on appelle des annulatoires des salats. Parce qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Il oublie une inclinaison, il ne fait rien, il continue sa salat, comme de rien n'était. Comme si de rien n'était. Il oublie un soujoud, une prosternation, comme si de rien n'était. Il oublie par exemple Takbir al-Ihram, le Allahu Akbar du démarrage de la salat qui ouvre la prière. Il l'oublie. Salat qui n'est pas acceptée. Etc, etc. Les exemples ne manquent pas. Vous voyez l'importance du firqa. Allahu Ta'ala nous dit dans le Coran, هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونِ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Sont-ils au même niveau, ceux qui connaissent, qui savent et ceux qui ne savent pas? Ils ne sont pas au même niveau. Ils ne sont pas au même niveau. Et c'est bien pour cette raison que ce soit dans le tawhid ou dans le fiqh, il y a des masa'il, des questions religieuses qui sont obligatoires d'apprendre. Si tu ne les apprends pas, alors au pire, tu peux tomber dans le polythéisme. Au moins pire, tu peux tomber dans le péché. Au plus pire également, tu peux aller en enfer, etc., etc. Tu peux tomber dans les innovations, ce qui n'est pas moindre. Tu peux tomber dans la désobéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi on doit étudier le fiqh également. On doit étudier le fiqh et apprendre. Le fiqh, c'est très, très, très vaste. On a mis un minimum, c'est un minimum les 4 ans, un minimum de 4 ans, mais en réalité, le fiqh, c'est tout un cheminement de... que même en 10 ans, tu n'auras pas appris tout le fiqh. Tu auras appris une petite partie, un petit bagage. En 4 ans, on va dire que tu auras des bases, des bonnes bases. Tu auras des bases dans le fiqh, tu peux enseigner... Comme le disent les savants, si tu as compris ce que tu as appris, une des conditions pour transmettre, j'avais posé moi à l'époque quand je revenais du Yémen, la question à un savant, et il m'avait dit, si tu as compris ce que tu as appris, il n'y a aucun problème. Donc, une des conditions pour enseigner également ce que tu as appris, c'est de l'avoir compris. C'est de l'avoir compris. Et la compréhension, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle « al-firqa ». Et ça, vous le savez. Le fiqh, c'est la compréhension. Donc, il faut également comprendre ce que l'on apprend. Deuxième chose, ici, je vous ai mentionné le premier point de l'importance du fiqh. L'importance. En réalité, on ne peut pas s'en passer. C'est un médicament de tous les jours, également le fiqh. Sincèrement, le fiqh, c'est un médicament de tous les jours, on ne peut pas s'en passer. Il faut apprendre le fiqh. Alors ça, c'est la première faïda que nous avons développée un petit peu. On ne peut pas prendre tout le temps du cours, c'est pour ça qu'on a pris un temps court. Mais il y a une deuxième faïda qui est extrêmement également importante, dont beaucoup n'ont pas conscience de cette faïda. Et Inch'Allah ta'ala, nous ici, aujourd'hui, on va vous faire prendre confiance, plutôt conscience et confiance, pourquoi pas. Conscience de cette faïda très importante également. Alors, vous voyez, toutes les questions que l'on se pose et toutes les questions que l'on pose qui que ce soit, on a tous des questions. Est-ce que si j'oublie le tachaoud dans la prière, qu'est-ce que je dois faire? Ah, il faut que j'appelle un chir. Est-ce que si jamais... attention, c'est des exemples qui me viennent tout de suite comme ça. Hein, je n'ai pas le temps de chercher les exemples. C'est le premier qui me vient. Est-ce qu'il m'a divorcé alors que j'étais en période de ce que vous savez? On va appeler un chir. Est-ce que c'est valide? C'est pas valide? Est-ce que quelqu'un m'a accusé? Est-ce que c'est valable? Ou est-ce qu'il faut qu'il ait des témoins? Tout ça, c'est dans le fiqh. Et quand je dis tout ça, c'est juste ce qu'on a mentionné là. Si vous voulez, on parle jusqu'à minuit, là, ça ne suffira pas pour tout. Je vous dis toutes les questions qu'on se pose. Et bien, quand vous allez étudier le fiqh, vous n'avez plus besoin du shirk, vous n'avez plus besoin de téléphoner, vous n'avez plus besoin. Sauf quand c'est un cas particulier, grave, où il y a des règles de usul firq, où là vraiment il faut choisir entre une grosse maslaha, un intérêt, et est-ce que le méfait il est plus grand, là tu appelles un shirk. Mais quand c'est des masaïl de firq, shirk, j'ai oublié ça dans la salade, shirk, j'ai eu un waswas dans la salade, qu'est-ce que je dois faire? Cheikh, j'ai oublié Surat al-Fatiha. Cheikh, j'ai oublié juste un verset de Surat al-Fatiha. Qu'est-ce que je dois faire? Cheikh, lui-même, il a oublié ça. Il n'a pas fait le sujoud de ça. Ou est-ce qu'on le suit? On ne le suit pas. Cheikh. Eh bien, en vérité, c'est toi le Cheikh. Si tu étudies le Firq, on va étudier Zad al-Mustaqna. Si on l'étudie correctement, du début à la fin, vous verrez que 90% des questions dans le fiqh, vous n'aurez plus besoin d'un cheikh. Surtout avec Cheikh Al-Uthaymeen Zad al-Mustaqna, puisqu'il va vous mentionner les khilafs. En plus, on va y aller doucement au début, mais au fur et à mesure du temps, après, quand vous allez être bien habitué dans le fiqh, les étudiants, etc., on va mentionner les khilafs, on va aller doucement. Parce qu'on doit s'adapter, je dois m'adapter aux étudiants. Et quand je verrai que le niveau commence à monter, ça va, on peut rajouter, on peut passer la deuxième vitesse, passer au level numéro 2, on le fera, Inch'Allah Ta'ala. Et de plus en plus, ça sera profitable, Inch'Allah Ta'ala. Donc, à vous de patienter. Assalamu alaikum, excusez-moi. Que veut dire khilaf, pardon? C'est moi qui m'excuse. Khilaf, ça veut dire divergence. Les divergences entre les savants. Les divergences. C'est-à-dire, on va prendre un exemple et on va vous éclaircir cette question religieuse. Exemple. Wafikum barakallah. Exemple. Vous posez la question à un savant. Vous lui dites, Cheikh, qu'est-ce que je dois faire? Je ne connais pas la position que je dois adopter concernant le vêtement légiféré de la femme. Est-ce que je dois couvrir mon visage ou pas? C'est le premier exemple qui m'est venu. Hein. Je n'ai pas le temps de... Sinon, on perd du temps si je dois chercher. Alors, Vous pouvez tomber sur un savant, en général, ils vous donnent leur position. Ils vous donnent leur position, l'épreuve, et voilà. Vous prenez la position du savant sur lequel vous êtes tombé. Attention, il n'est pas permis d'aller voir un autre savant et de lui dire et de reposer la question. Ce n'est pas permis. Parce que ça veut dire que vous n'avez pas accepté la fatwa du premier. Donc, ça veut dire que vous cherchez une fatwa qui vous arrange. C'est une faïda pour vous, ça, il faut le savoir. On appelle ça adeb souel, le comportement dans le questionnement des étudiants, des savants. Alors, on en était où? Donc, vous pouvez poser la question à un savant et le savant, il va vous répondre, il y a une divergence entre les savants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plusieurs positions différentes concernant cette question religieuse. Ici, en particulier, entre autres, le fait de se couvrir ou pas le visage. Le cheikh va vous dire, voilà, il y a telle école, tel savant, par rapport à telle preuve, ils disent que c'est obligatoire. La femme doit se couvrir le visage. Et il va vous dire, il y a d'autres paroles qui disent que ce n'est pas obligatoire parce que il y a telle et telle preuve, tel cheikh a dit que couvrir le visage, ce n'est pas obligatoire. C'est ce qu'on appelle une divergence entre les savants. Alors, la divergence ne se réduit pas forcément à deux positions. Il peut y avoir trois positions, il peut y avoir quatre positions, il peut y avoir plusieurs positions. À savoir que parmi ces positions, il y aura des positions qui seront plus faibles que d'autres. Mais ça, c'est un autre sujet. Et c'est un autre cours. Tayyib. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Où est-ce que j'en étais? Naam. Donc, la deuxième énorme faïda, c'est que lorsque vous allez apprendre le fiqh, vous allez répondre à un pourcentage énorme de questions que vous vous posiez. Énorme! Un pourcentage énorme qui vous évitera de chercher à gauche et à droite. Il faut qu'on pose la question. Vous savez, aujourd'hui, c'est tellement, enfin moi pour ma part, et pourtant qui suis, normalement ça ne devrait pas être difficile pour moi. Mais moi je trouve que c'est devenu extrêmement difficile, voire impossible, pratiquement impossible de poser des questions à des savants. Donc, il faut acquérir un minimum d'outils de science pour être capable de trouver tout seul. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est plus comme avant. Attends, je vais appeler Cheikh Al-Fawzan. Attends, je vais appeler Cheikh Abdelrazak. Attends, c'est fini ça. Sauf pour certains qui ont des entrées, on se comprend. Ils ne vous donneront pas, qu'ils ne vous partageront pas. Il ne faut pas rêver. Donc voilà, c'est comme ça. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc il vaut mieux être autodidacte. Le but du talab el-ilm, vous savez, de l'étude de la science, je vous le dis, et essayez de viser ce but, même si chacun il atteindra son propre niveau, mais au moins vous aurez fait le maximum. C'est quoi le but? C'est de devenir autodidacte. C'est ça votre but. Autodidacte, ça veut dire vous êtes capable de chercher une question religieuse quand vous en avez besoin. Alors, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais persistez, accrochez-vous dans l'étude de la science. Normalement, avec le programme qu'on a prévu ici, comme je vous l'ai dit, ça ne va pas se faire en un jour, deux jours. Le talab el-ilm, c'est chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Il faut patienter. Et Inch'Allah, Ta'ala, ceux qui auront patienté et qui seront les plus endurants, à la fin, ça portera les fruits. Comme Cheikh Al-Uthaymin. À la fin, il était tout seul dans un dars avec Cheikh Saadi. L'histoire de la pomme, Tuffah. Cheikh Saadi, il avait ouvert un kitab. Il enseignait un kitab dans Usul Fiqh. Et Usul Fiqh, c'est pointu. Donc, plus on va monter, plus ça sera technique. Et au début, il y avait du monde, etc. Et à la fin, il restait que Cheikh Al-Uthaymin dans le cours de Cheikh Al-Uthaymin, qui était un élève de Cheikh Saadi, rahimahullah. Et lorsque ça s'est terminé, Cheikh Saadi a offert une pomme à Cheikh Al-Uthaymin. À l'époque, Cheikh Al-Uthaymin, c'est la première fois qu'il voyait une pomme. Alors vous voyez, on n'a pas de quoi être ingrat. On n'a pas de quoi être ingrat, nous qui laissons les pommes. Des fois, on oublie de les manger. Hein. Wallahu al-musta'an. Donc, il a offert une pomme. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, il lui a demandé comment ça se mange. Cheikh Saadi lui a expliqué, tu les coupes en quarts et tu fais partager. Et il est parti, Cheikh Al-Uthaymin, il a mangé la pomme avec sa famille. Et regardez, il a patienté, il a été jusqu'au bout du dars. Et à la fin, subhanallah, on va pas vous faire la biographie de Cheikh Al-Uthaymin, hein. C'est incroyable ce qu'il a laissé. Il y en a qui disent, toute une vie, tu pourras pas lire tout ce qu'il a écrit. Cheikh Al-Uthaymin, c'est Cheikh Al-Uthaymin. Peut-être pas tout ce qu'il a écrit, mais tout ce qu'il a fait. Tu ne pourras pas lire tout ce qu'il a fait, les audios, les écrits. C'est Wallahu Akbar. Il est devenu un de nos grands savants de la Sunna. Donc, l'importance du fiqh, ça va vous permettre d'être, dans beaucoup de questions concernant le fiqh, d'être autonome, en fait. Autonome. Il y a des questions que vous ne poserez plus. Vous serez capable d'aller regarder, de chercher, de comprendre. Et parce que, également... Ça sera dans plusieurs temps, hein. C'est pas maintenant. On fera également des cours sur ce qu'on appelle el-bahth. El-bahth, c'est une matière qui implique la recherche. Comment rechercher? Comment faire de la recherche dans les bibliothèques, sur Internet, etc. Donc je vais essayer d'adapter ce cours en mode francophone parce que ce sont des cours que j'ai suivis mais en mode arabophone. Et on essaiera, inshallah ta'ala, de vous donner le plus de fawaïd possible. Comme ça, vous aurez des bagages, comment chercher Naham. Vous savez, il y a beaucoup, beaucoup de gens, donc je parle pas de l'institut, mais extérieur, qui me posent souvent des questions qu'ils pourraient eux-mêmes trouver la réponse en 5 minutes. Hein. Même en français, il y a les réponses. C'est parce que les gens, hein, je ne les blâme pas, et d'ailleurs c'est pour ça que je fais les recherches pour eux, c'est parce que les gens n'ont pas cette capacité, ne savent pas comment chercher. Non. Ils n'ont pas cette capacité de pouvoir chercher, de pouvoir discerner, de pouvoir... Inch'Allah, ta'ala, on fera des cours sur ça par la grâce d'Allah. Ta'ala. Donc souvenez-vous bien des deux fawaïd très importantes, fondamentales. Le fiqh, ça va vous permettre de savoir comment adorer Allah, pour pas vous tromper, pour pas faire de shirk, pour pas faire de bid'ah, pour pas faire de kufr. Eh oui, beaucoup de gens ont minimisé le firq. Ils l'ont tellement pris à la légère qu'ils l'ont délaissé. Eh ben, c'est pas beau à voir ce qu'ils sont devenus. Hein. Ça, c'est la première faïda. Vous allez apprendre comment adorer Allah. Tu ne pourras pas adorer Allah si tu ne sais pas comment l'adorer. Ça, c'est une première chose. Et tu ne pourras pas non plus exhorter les autres à comment adorer Allah si toi-même, tu ne sais pas. فَاقِدَ الشَّيْءِ لَا يُعْطِي. Celui qui est dépourvu d'une chose ne peut la transmettre. Parole des savants. Deuxième chose, on a dit, c'est que vous allez vous instruire tellement que vous n'aurez... Les questions dans le fiqh que l'on étudie, que la plupart des gens posent aux savants, vous aurez les réponses. Vous aurez les réponses en vous-même. Donc, ça vous fait vraiment avancer. Parce que des fois, il y a des gens, ils sont vraiment bloqués. Il y a même des gens qui me contactent. Oui, je viens de faire l'Aïcha, j'ai oublié ça. Est-ce que c'est valide? C'est pas valide? Question que s'il étudie le fiqh, il pourrait répondre tout seul. Il pourrait répondre tout seul, il est obligé d'attendre ma réponse, peut-être moi j'ai pas vu tout de suite sa réponse. Alors je ne dis pas, la meilleure des choses c'est demander aux gens du rappel, si vous ne savez pas, c'est de demander aux ulama. si vous n'avez pas accès au ulama, demandez aux étudiants, etc. Mais au jour d'aujourd'hui, ça devient difficile. Donc, il faut, parfois, il faut essayer de devenir autonome dans ce qui nous est abordable, ce qui est à notre portée. Et moi, je vous le dis, en tant qu'enseignant, moi, je vous le dis, les questions dans le fiqh, la plupart, elles sont abordables pour vous. Vous êtes venu étudier dans un institut, ce n'est pas pour ressortir avec 2-3 fawaïd, non. Non, surtout que vous vous investissez de plusieurs manières. Donc, la moindre des choses, c'est de sortir avec beaucoup de fawaïd dans le fiqh. Attends, je suis à un institut. J'ai pas besoin j'ai fait salat al-maghrib, j'ai oublié le tashahoud, est-ce que je dois refaire une rakaat ou est-ce que je dois faire sujoud sahou, la prosternation de l'oubli, est-ce que je dois la faire, si je dois faire la prosternation de l'oubli, est-ce que je la fais avant le salem ou après le salem? Tout ça, quand vous allez faire du fiqh, c'est maîtrisé ça. Chapitre de la prière, tout ça c'est dedans. Chapitre des ablutions, il y a tout. Après ça dépend du professeur, mais normalement il y a tout. Chapitre de l'eau, elle est pure, elle est impure, quand est-ce, pourquoi, les conditions, vous allez connaître. Les impuretés, chapitre de Dianaza, vous allez apprendre mortuaire, salat mortuaire, vous allez apprendre comment, on va apprendre comment on lave un mort. On va apprendre pour l'homme, pour la femme, c'est pas pareil, il y a des similitudes. La salat, salat al-janaza, on va apprendre tout ça. Chaque chapitre dans le fiqh, il y a un chapitre. Dans chaque zakat. Alors je vous le dis, la zakat, c'est une de mes plus techniques pour moi. C'est une avec laquelle j'ai vraiment, je dois shtahid. C'est la zakat, c'est attention. Hein. Ne croyez pas que la zakat elle est réduite à 2,5 sur une somme que j'ai gardée pendant un an. Ne croyez pas que c'est ça la zakat. Zakat sur le riz, zakat sur les dattes, zakat sur les céréales, zakat sur l'or, zakat sur l'argent, zakat sur les raisins secs, etc., etc., la zakat. Zakat sur les chameaux, c'est pas pareil. Zakat sur les moutons, c'est pas pareil. Zakat sur il n'y a pas sur les autres animaux. Quand est-ce que je dois payer la zakat quand j'ai un troupeau? Quand est-ce que je dois pas payer? Zakat sur les dettes. Tout ça, vous devez connaître. Et chacun, il a un nisab. Vous savez c'est quoi un nisab? C'est le plafond à partir duquel vous êtes redevable, façon de parler, redevable, vous devez payer la zakat. Et il y a des cas où vous ne devez pas payer, vous ne payez pas. L'association de deux associés dans la zakat, à partir de quel moment ils doivent payer la zakat ou pas. Barakallahu fik, mashallah. La marchandise, le commerce, quand est-ce que tu dois payer? Zakat sur la dette, celui qui a prêté de l'argent, lui-même il doit payer. Pour chaque année, à partir de l'année d'après, lorsqu'il a dépassé la première année. C'est... Wallahu alam, hein. Chacun, il est comme il est dans le fiqh. Il y a des gens, ils vont dire, non, c'est simple. Hein. Moi, j'ai trouvé que c'était simple. Il y a des calculs à faire, il y a des sommes à retenir, il y a des... Moi, j'ai trouvé que c'est plus technique que les autres. Mais il y en a, ils vont vous dire, non, tranquille. Hein. Voilà, et il y en a qui vous diront... par exemple, il y en a qui vous diront janaza, salat mortuaire, lavage mortuaire. Non, j'ai trouvé que c'était difficile. Il y en a d'autres qui vont dire non, c'est facile. Mais il faut jamais trouver les choses trop faciles. Il faut penser aux autres, de se dire que Allah il m'a facilité, c'est vrai, c'est facile pour moi, mais peut-être que pour d'autres c'est difficile. Alors, il faut faire attention à ça. Donc, c'était juste un aperçu. Le Hajj, chapitre du Hajj, chapitre de ceci, chapitre de... C'est ça le fiqh. On prend un livre et il y a des chapitres. Vous allez apprendre tout ça en détail. Nous, on essaiera vraiment de faire les choses bien. On vous montrera une vidéo de quelqu'un qui est en train... Par exemple, pour le lavage, on vous montrera quelqu'un qui est en train de laver, les conditions, parce qu'avec les vidéos, les dessins, c'est... les élèves, ils arrivent mieux à, comme dans le hadith, on leur fait des dessins, on appelle ça khilqat dhimma, c'est awsora dhahniya, ce sont des dessins pour faire l'apprentissage de l'esprit. Hein, pour que ça, c'est mieux des fois avec des vidéos. Il explique, le cheikh, il explique. Mais lorsqu'on a une vidéo, on est en train de regarder, tiens, comment il fait l'odo, comment il fait, ça s'ancre mieux dans l'esprit. Vous voyez? Et tout ça, on va le faire, inshallah ta'ala, chapitre par chapitre, chose par chose, doucement, on avance doucement, on se donne le temps. Il faut se donner le temps. Il ne faudra pas dire, oh, c'est long, c'est le temps de la Belaïm, c'est comme ça. Chacun, il tiendra ce qu'il tiendra. Il y en a qui tiendront 6 mois, il y en a qui tiendront 1 an, il y en a qui tiendront 2 ans. C'est comme dans les autres marakis, même chez les savants. Il y en a, ils tiennent 1 mois, 6 mois, 2 semaines, 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il y en a, ils ne bougent pas, ils sont toujours avec toi. C'est ceux-là qui vont le plus stafid. Ceux qui s'accrochent et qui continuent. Wallahu. Ahlan. Donc, j'espère que vous avez saisi ces deux fawaïdes fondamentales très importantes. Qu'est-ce qu'on fait dans le firqa? C'est quoi vraiment l'importance? Et j'essaie de vous en citer 2 qui sont fondamentales. Au moins maintenant, vous savez, ça va vous motiver. Donc, aujourd'hui, normalement, on doit parler dans notre cours de firqa. On avait cité dans le cours précédent, 3 choses qui faisaient ce qu'on appelle l'épée tranchante, ça veut dire la grosse différence entre les compagnons et les autres concernant le Qur'an, le firq. Ils avaient 3 spécificités, les sahaba, les compagnons. Alors, pouvez-vous me les citer? Concernant le Qur'an, on avait dit que les compagnons, ils avaient 3 points. Masha'Allah. Alors là, pour une fois, c'est les frères qui ont dégainé le but. La mémorisation, la compréhension et la mise en pratique. Arsène, papa, très bien. Très bien, papa. Ensuite, on a des réponses concernant Naham, comprendre et pratiquer. Très bien, très bien. Mémorisation, compréhension, pratiquée, le Coran, ils sont témoins de la révélation. Naham. Barakallahu fikum pour vos réponses, c'est très bien. Wamin abraz mazahir ilayya bil Coran zaman khulafa ar-rashida jami' al-musa. Alors, ils sont témoins de la révélation, mémorisés verset par verset, très bien, tout à fait. Mais n'oubliez pas ces 3 points. Les compagnons, ils mémorisaient, il comprenait et il mettait en pratique. N'oubliez pas ces 3 points. N'oubliez pas ces 3 points. C'est valable pas uniquement pour le Coran, pour toutes les sciences. Sinon, on sera comme des ânes qui portent des livres. Et ça, c'est dans le Coran. Hein. Comme des ânes qui portent des livres. Ça veut dire l'âne, il porte, mais il n'y a pas de faïda. Il ne sait même pas c'est quoi sur son dos. Croyable. Hein. Donc également, nous avons, on reprend notre cours où nous l'avions laissé la dernière fois. وَمِنْ أَبْرَازِ مِنْ أَبْرَازِ مَظَاهِرَ الْعِنَايَةِ بِالْقُرْآنِ الزَّمَنَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِ. Donc, à l'époque des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une des particularités concernant le Coran qui s'est produit à l'époque des califes bien guidés, écoutez bien, c'est qu'ils ont rassemblé le Coran. Ils ont rassemblé le Coran à l'époque de Abu Bakr Siddiq, Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu. L'année 13 de l'Égypte. Alors, on nous explique, retenez bien ça. Pourquoi les compagnons, à cette époque-là, l'époque d'Abu Bakr, c'est là que ça a commencé la première fois, ils se sont décidés à rassembler le Coran. C'est très important que vous sachiez cela. Alors, on va vous éclairer sur ça. C'est important de le savoir. C'est parce que il y a eu, à cette époque, des combats, des guerres contre les mécréants. Les apostats, les mécréants, les associateurs, tout ce que vous voulez. Il y a eu des guerres. Et ce qui s'est passé, après que beaucoup de savants du Coran tombèrent pendant les guerres contre les ennemis, à l'époque de Othman, ils décidèrent de réunir et envoyer le Coran dans toutes les contrées musulmanes. Il y a plein de compagnons qui sont morts à la guerre et c'était des Huffaz, qui connaissaient le Coran. Ils ont eu peur, les compagnons. Ils se sont dit, le Coran, il va partir comme ça. Et ça continue. Pour les unifier, donc ils ont réuni le Coran, ils l'ont compilé, ils ont réuni le Coran en un seul livre, et c'est à ce moment-là qu'ils l'ont envoyé à l'époque de Uthman ibn Affan. Ça a commencé à l'époque d'Abu Bakr, ils l'ont réuni, mais lorsque vraiment ils l'ont réuni, ils l'ont envoyé, ils l'ont propagé pour unifier les musulmans sur une seule parole, le Coran, c'était à l'époque de Uthman ibn Affan. Alors, n'oubliez pas ça, c'est très important. Vous conviendrez que c'est important de savoir qui a été le premier à réunir le Coran et à le propager, et à quelle époque. C'est assez important, et on n'entend pas ça tous les jours, bien entendu. Alors, Rabia, moi, je suis un peu sallallahu alayhi wa sallam, wa ahwaluhu wa ma qaran avalik wa zuruf wa malabis athar kabir fi diqa afhamihim. وما كان شاعري منها يسألون عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أنهم عنوا بتبليغ السنان. Également, les compagnons, lorsqu'ils avaient des ashkels, des petits soucis concernant les questions de fiqh, de jurisprudence, concernant les habits, n'importe, ou l'argent ou toute autre chose, ils demandaient à au messager d'Allah, lorsqu'ils avaient un manque de compréhension, qu'ils avaient besoin d'un éclaircissement, c'est de cette manière qu'ils se sont vraiment occupés, qu'ils ont donné vraiment beaucoup de temps à la sunna pour la transmettre. Parce que concernant les compagnons, c'était une obligation pour eux, les compagnons, ce fut une obligation pour eux de connaître et de transmettre la religion à tous les gens. Également, on nous dit alors, également, il faut savoir une chose. Ça, c'est très important et au jour d'aujourd'hui, on a beaucoup négligé. Alors, concernant nos cours à l'Institut, quel qu'il soit, n'importe quelle matière, on prendra toujours conscience au fur et à mesure de l'enseignement, on prendra toujours conscience de toutes les questions qui sont négligées au jour le jour, à l'extérieur. À l'extérieur, il y a tellement de choses, les gens n'étudient pas, les gens n'en font qu'à leur tête, les gens suivent leur passion, etc. Ils veulent du facile, comme l'argent facile, on veut du ilm facile. Sans aller étudier, sans apprendre, on voit ce que ça donne. Nous, à l'Institut, on apprendra toutes ces questions, on fera des répliques à toutes ces questions qui sont mises de côté, négligées. Alors, ce que je voulais vous dire, ici, on nous parle d'une question, l'importance que donnaient les compagnons à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la vénération dans le sens louable du terme, que les compagnons avaient pour la sunna du prophète, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous conviendrez qu'aujourd'hui, on se lâche beaucoup. Le prophète a dit, on ne sait même pas si c'est authentique, si ce n'est pas authentique. C'est de cette manière-là qu'on peut contribuer à saboter la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour cela, nous avons les compagnons qui, eux, se sont transmis les uns les autres et ainsi de suite jusqu'au ulama aujourd'hui. Ils se sont transmis une méthodologie qui ne laisse aucune place, aucun recours au doute, au laxisme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors ici, dans notre ouvrage, dans le fiqh, on nous mentionne quelques exemples qui nous montrent comment les compagnons attachaient une importance capitale. Ils attachaient une importance capitale à ne pas prononcer la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, sans être sûr à 100%. Et on va vous donner des exemples de comment ils étaient les compagnons. On a des exemples ici. On nous dit, il a été rapporté de Qubaysa ibn Zuhib, qui a dit, une grand-mère, hein, une vieille dame, hein, est venue vers Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu. Cette dame est venue donc vers Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Elle lui a donc posé une question. Elle lui a donc posé une question à Abu Bakr Siddiq. Elle lui a posé une question sur la l'héritage. Elle a demandé à Abu Bakr, quelle est ma part dans le livre d'Allah Ta'ala? Quelle est ma part d'héritage dans le livre d'Allah Subhanahu wa Ta'ala? Il répondit à Abu Bakr, regardez bien, il dit, je ne connais rien du tout de ce sujet dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Reviens aux gens et demande pardon. Reviens plus tard, je vais demander aux gens. Je vais interroger les gens. Parce que c'était à l'époque, c'est comme ça qu'il faisait. On va l'étudier à la suite. Que les compagnons, surtout les califes, lorsqu'il n'y avait pas de dalil, il n'y avait pas de hadith, eux-mêmes, ils n'avaient pas de dalil, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils réunissaient des compagnons et ils disaient, il n'y a pas quelqu'un qui a entendu du prophète quelque chose sur une question religieuse. Ils faisaient ce qu'on appelait la consultation mouchawara. Ils consultaient les autres. Donc, c'est pour ça, là, ici, qu'il lui a dit à Abu Bakr, il lui a dit, reviens plus tard, je vais questionner les gens. Abu Bakr, il a demandé aux gens, il y a Mughayra ibn Shu'ba qui lui a dit hadaratu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a'taha as-sudus. Il lui a dit, j'ai été témoin en présence du prophète alayhi salatu wassalam que par rapport à son cas, elle a un sixième de l'héritage. Elle a le droit à un sixième. Abu Bakr, il a dit, regardez, et là on vient à notre sujet, pourquoi on vous a raconté ce hadith. Abu Bakr, il lui a dit à ce compagnon, pourtant qui a dit, ce compagnon, il est en train de dire, moi j'étais avec le prophète, c'est le prophète qui l'a dit. Et regardez Abu Bakr, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre avec toi? Vous voyez qu'ils ne rigolaient pas, eux, avec la sunna. Il y a un compagnon là qui est en train de vous dire, j'étais avec le prophète, Et Abu Bakr, il lui a dit, est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre avec toi? Tellement il rigolait pas avec les hadiths du prophète. Et nous, aujourd'hui, n'importe qui vient et dit, le prophète a dit, le prophète a dit, le prophète a dit. Wallahu al-musta'an. Ensuite, il y a un autre compagnon qui s'appelle Mohammed ibn Musallam al-Ansari, qui a dit la même chose que Mughayra, c'est-à-dire qu'elle avait droit à un sixième. C'est à ce moment-là que Abu Bakr, il a pris leur parole et leur jugement. Il a exécuté Abu Bakr, c'est-à-dire ce qu'ils ont dit. Tayyib, ça c'est le premier dalil qui nous est mentionné pour vous dire ici l'importance, comment ils étaient les compagnons avec les hadiths du prophète. Il n'y avait pas de quelqu'un, il vient, il dit le prophète a dit, il faut l'épreuve. Rawa Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu anna Aba Musa sta'dhana ala Omar thalatha. Regardez un autre récit qui s'est passé avec les compagnons. Vous avez Sa'id, Abu Sa'id al-Khudri, compagnon radiallahu anhu. Il était avec Abu Musa radiallahu anhu et il est parti voir Abu Musa plutôt et il lui a demandé la permission trois fois pour rentrer à Omar plutôt. Il a demandé à Omar, il est parti chez Omar, il a demandé à Omar trois fois l'autorisation de rentrer. Il n'a pas été autorisé, il n'a pas eu de réponse. Il est revenu ensuite. Et c'est-à-dire qu'il s'en est retourné au bout de trois fois. Il n'a pas eu de réponse, il s'en est retourné. Puis il a rencontré les compagnons qui lui ont dit qu'est-ce qui t'arrive, pourquoi tu es revenu. Il a rencontré en fait Sir Omar. Il l'a rencontré, il lui a dit pourquoi tu es revenu. Il lui a dit j'ai entendu du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, il a dit celui qui demande l'autorisation trois fois alors qu'il ne lui est pas autorisé, qu'il fasse demi-tour. Quand vous frappez chez quelqu'un trois fois, s'il ne répond pas, vous insistez pas, vous partez. Frappez, sonnez, d'accord ? Trois fois, vous partez. Il lui a été répondu à ce compagnon qui avait frappé trois fois, qui est revenu et qui a dit « J'ai entendu le prophète dire au bout de trois fois, tu dois faire demi-tour. » Les compagnons, ils lui ont dit, est-ce que tu as un éclaircissement, quelque chose qui vient appuyer ta parole sur le prophète, alayhi salam. À la suite de cela, il y a plusieurs compagnons qui ont validé ce qu'il a dit pour que cela soit accepté. Donc, il n'y avait pas une personne, pourtant c'était à l'époque, des compagnons, juste après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'acceptait pas même d'un compagnon de confiance, il fallait que ça soit validé. Regardez, subhanallah, encore pire ici. Il a été rapporté de, et on va terminer sur ça, inshallah ta'ala, il a été rapporté de Asma bint Hakim al-Fuzari Fizari, An Ali ibn Abi Talib, de Ali, vous connaissez tous Ali, le quatrième calife de l'islam. Il a été rapporté de Ali, radiallahu anhu, qu'il a dit, Kuntu idha sami'atu, lorsque j'entendais quelque chose que l'on rapportait du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, un hadith qui m'était profitable, si Allah le voulait, lorsqu'il était rapporté de quelqu'un, je lui demandais de jurer avant de l'accepter. S'il jurait, je saddaqtuhu, c'est-à-dire j'acceptais, je rendais véridique ce qu'il me disait, j'acceptais. « Donc, vous voyez ici, dans cette question que nous avons abordée aujourd'hui, l'importance qu'avaient les compagnons concernant le firqa. Parce que ça, la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est du firqa. Il ne disait pas des paroles du prophète comme ça. Il y a un hadith du prophète, le prophète a dit. Alors, ça, c'est une, on le verra à la suite dans le prochain cours, c'est une méthodologie que les compagnons ont, ils ont fait exprès, c'était comme ça. C'était pour protéger la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, ça a été transmis de génération en génération, de génération en génération. Mais nous, on est quoi comme génération? Nous, nous sommes des générations, j'ose pas dire le terme parce qu'il est fort, 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 mais nous sommes des générations fatiguées. Hein. Fatiguées. Il faut faire beaucoup d'efforts. Pourquoi je dis ça? Parce que la Jama'a de Ahl-Sunnah, elle est fatiguée. Il faut dire la vérité. Elle est fatiguée. Donc, le fatigué, ça veut, c'est un terme pour vous faire comprendre. On n'a pas dit morte, on a employé le terme fatigué, ça veut dire que c'est rattrapable, il y a des gros manques, il y a trop de divisions, il y a trop de jalousie, il y a trop de problèmes, il y a trop ceci, manque de science, on n'écoute pas les ulamas, c'est tout un sac rempli. Mais on n'a pas dit qu'elle était morte, on a dit elle est malade, elle est fatiguée, voilà, il faut se réveiller et ça commence par nous ici à l'Institut, si on peut contribuer. On le fera, inshallah ta'ala. Donc, barakallahu fikum pour votre présence. Inshallah ta'ala, pour le deuxième cours, dans une 5, 10, 15, dans une quinzaine, à peu près 2 minutes. Vous m'excuserez si j'ai un petit peu de retard. S'il vous plaît, salam alaikum, wa alaikum salam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Les compagnons sont appelés aussi les khalifas. Alors, vous avez les compagnons à Sahaba. Sahaba, c'est les pieux prédécesseurs. Salaf al-Salih. Vous avez après les compagnons, vous avez les Tabi'in. Alors, il y a les grands compagnons, les grands Tabi'in et les petits Tabi'in. C'est-à-dire Tabi'in, ceux qui les ont suivis. Et les califes, ben ce sont les quatre. Les quatre, Abu Bakr, Omar, Othman et Ali. Ce sont les quatre califes de l'islam, on dit en français. Et les tabi'un, c'est ceux qui sont venus après les compagnons. Voilà. Inch'Allah ta'ala, rendez-vous pour le deuxième cours de Aqida, le dogme, la croyance. Barakallahu fikum. Alors, une autre question. Excusez-moi si cette question est hors sujet, mais les règles du commerce en détail seront étudiées dans le firq ou dans usul firq. Ça sera étudié dans le firq. Les règles du commerce, ça sera étudié dans le firq, mais il y aura également des règles de firq qui sont employées pour le commerce. On les verra dans usul firq. Donc, on peut dire plus dans le firq, mais il y aura des choses dans usul firq. Et c'est pas hors sujet, hein, y a pas de souci. Hein. Les califes précèdent les pieux prédécesseurs, s'il vous plaît, je termine juste avec ça. Les califes font partie des pieux prédécesseurs, ils font partie des pieux prédécesseurs. Les quatre califes bien guidés, c'est parce que ils ont été désignés indirectement par et directement par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils précèdent les sahaba, oui, ils précèdent les Sahaba, mais ils font partie des Sahaba également. Les quatre califes précèdent les Wafikum Barakallah. Je regarde du côté des frères. Non, c'est bon. Barakallahu fikum wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.